C'est 23.
L'essentiel de Paul Arcand. Tout ce que vous devez savoir en moins de 60 minutes.
Jeudi 13 janvier, bonne journée, bienvenue au 98.5. Ce matin, on a de la faible neige, c'est comme ça depuis hier, petite accumulation, moins 10 degrés actuellement à l'aéroport Montréal-Trudeau et ça va demeurer stable autour de moins 10, moins 9 pour la journée. Cette neige va cesser en soirée, ça demeure couvert par la suite avec un minimum de moins 12 pour la nuit. Demain, on termine la semaine avec un ciel qui va se dégager, le soleil va s'installer. Et ce sera un petit peu plus froid, moins 13 degrés. Par contre, pour la fin de semaine, je vous le dis tout de suite, des nuits froides et des journées ensoleillées, mais quand même assez glaciales. On parle de moins 24 dans la nuit de vendredi à samedi. Samedi, c'est autour de moins 16, moins 17 degrés. Dans la nuit de samedi à dimanche, moins 20. Et dimanche, un peu mieux, là, c'est autour de moins 11 degrés. Et ce qu'on prévoit pour lundi, c'est une bonne tempête de neige. On parle d'une vingtaine de centimètres, facile pour la région de Montréal. On aura l'occasion de le détailler un peu plus tard dans l'émission. Bon, on peut dire qu'il y a un changement de cap qui s'est opéré hier dans la gestion de la pandémie par l'annonce d'un certain nombre de mesures. D'abord, et je l'avais mentionné, je pense, à plusieurs reprises, l'importance d'informer les parents, les profs, les directions d'école de ce qui allait se passer lundi. Québec annonce le retour en classe à compter de lundi, primaire, secondaire. Ce qui, je pense, est une bonne nouvelle en soi. Il y a évidemment des précisions à apporter sur le protocole. Puis je vais juste soulever un certain nombre de questions ce matin, là. Il y aura, c'est sûr, le port du masque à l'intérieur des classes, puis dans les déplacements. Également, les élèves qui mangent le midi ensemble, ben, vont créer une espèce de bulle puis ils seront toujours ensemble pour partager le repas. Est-ce que les profs auront les fameux masques qu'ils demandent, les N95 ou l'équivalent? J'espère que oui. Visiblement, on était prêt à en vendre 1 million il n'y a pas si longtemps, alors je présume que ça va être fait. Et on peut mettre de côté le débat là, qu'on a vu au début de la semaine. Est-ce que c'est nécessaire? Pas nécessaire. Les profs doivent être protégés. Je reprends les propos de Jean-François Chicoine hier matin, docteur Chicoine, pédiatre, qui disait « Il faut que les enfants retournent en classe. Pourquoi? Parce qu'ils en ont besoin. Ils peuvent pas passer autant de temps devant des écrans. Et le travail de la santé publique, c'est comme surtout de protéger les profs, permettre la vaccination, si c'est pas déjà fait, des enseignants, la troisième dose, et aussi protéger les parents. Parce que les enfants, puis il y a cette espèce de constat qu'on voit de plus en plus dans le monde, là, avec ce variant, c'est qu'on va tous finir par l'avoir, ou 50% de la population, et l'immunité va se faire. Puis c'est bien différent, comme contexte, ce qu'on avait l'an passé, alors que la vaccination commençait, et qu'on avait un variant Delta qui faisait du ravage. Celui qui domine, est extrêmement contagieux, mais il y a une espèce de consensus qui existe pour dire qu'il serait moins dommageable et les séquelles seraient moins importantes. Alors, retour en classe lundi. Pour ce qui est des cégeps universités, ça va être précisé. Ça pourrait aussi se passer en présentiel, quoique on laisse une porte ouverte probablement jusqu'à la fin janvier. Maintenant, le couvre-feu, c'est presque terminé. M. Legault devrait annoncer que quelque part, peut-être en fin de semaine, peut-être lundi, là, on va lever le couvre-feu en question. Les 25 ans et plus peuvent également se faire vacciner. Et là, ça va être important d'augmenter la cadence de vaccination. Tous les experts en arrivent à ce consensus. On peut discuter des mesures, mais la clé, ça demeure la vaccination. Première dose, deuxième dose, troisième dose. Pour limiter les effets, pour éviter que les gens se retrouvent à l'hôpital. Puis je reviendrai sur les hôpitaux tantôt, là. Mais c'est, je pense, l'élément qui est évidemment le plus important. Daniel Paré sera avec nous, là, le chef d'orchestre de la campagne de vaccination. Parce que ce qu'on remarque, c'est que les adultes, c'est pas un gros problème. On a pris du retard pour la troisième dose, là, c'était un peu lent. Mais chez les enfants, dans les écoles, ça tarde. Et c'est le devoir ce matin qui nous arrive avec des chiffres. Il y a 60 000 élèves des écoles primaires à Montréal qui ne sont pas vaccinés, qui restent à vacciner. Je sais qu'il y a des parents qui sont eux-mêmes vaccinés deux fois, qui hésitent à faire vacciner leurs enfants. Donc, 60 000 élèves, nous dit-on, de 5 à 11 ans, qui n'ont pas eu la première dose. Ce qui fait que dans 58 écoles primaires, le taux de vaccination pour les enfants était de moins de 30 %. Il y a certains établissements là qui ont même un taux de 5 % et moins, selon les chiffres de la Santé publique de Montréal. Et la couverture vaccinale varie énormément d'une école à l'autre. Mais il y a du travail à faire pour convaincre les parents d'accepter que leurs enfants soient vaccinés. Et juste peut-être pour parler également des protocoles qui ont été modifiés, on sait qu'on a apporté des changements pour les écoles, pour les garderies. Et précisons tout de suite que beaucoup de ces mesures ont été annoncées, donc confirmées par le docteur Boileau, le nouveau directeur de la Santé publique, mais c'était le plan de match du docteur Arruda avant sa démission. Maintenant, ça demeure aussi un peu flou. La fameuse troisième dose. On s'entend qu'avec le nombre de cas, il y a beaucoup de gens, puis vous en connaissez, j'en connais, puis c'était moins vrai la première fois, mais des gens qui ont été testés positifs, qui ont eu la COVID, qui ont eu des symptômes gérables et qui s'en remettent relativement bien. Et là, la question, puis c'est le cas d'Alain, là. Alain a été testé positif, puis cette semaine, mardi, on parlait avec le docteur Weiss, puis tu dis, OK, c'est quoi le délai entre le moment où j'ai testé positif et que je reçois la troisième dose? Hier, Québec nous dit, dès que vous avez plus de symptômes, allez chercher votre troisième dose. Je fais entendre ce que le docteur Weiss disait là-dessus.
Idéalement, il faut attendre un minimum de 3 mois. Je vous dirais, si vous avez eu un test de COVID positif prouvé et que vous avez déjà eu vos 2 doses et que vous finissez à ce moment-là, entre guillemets, votre épisode aigu de COVID, à ce moment-là, oui, il faudrait attendre à peu près un minimum de 3 mois pour avoir, je vous dirais, votre troisième dose.
Pourquoi? Puis je vais résumer, là. C'est que le fait d'avoir eu la COVID... Là, vous êtes évidemment protégé. Et le délai de 3 mois, c'est pour, je dirais, donner comme un petit coup supplémentaire. Bref, que c'est pas nécessaire de se faire vacciner si on a eu la COVID, par exemple, dans le temps des fêtes, puis qu'on a passé la période, puis qu'on n'a pas les symptômes. Mais c'est pas ça qui est le message véhiculé. Tendance à croire le Dr Weiss plus, mais bon. Ça, c'est un peu difficile à suivre également. Et l'autre chose qu'il faut ajouter pour les écoles et les garderies, puis je sais pour les parents, là, c'est puis pour les profs aussi, là, la santé publique refuse maintenant de fermer les classes et les groupes dans les garderies après qu'on ait découvert un cas. Et l'isolement est ramené à 5 jours. Alors, c'est la recommandation, donc, pour les écoles primaires, là, les moins de 12 ans, et pour ce qui est des garderies. Et là, ce qu'on dit aux gens, puis là, il y a une responsabilité parentale. Ton enfant fait de la fièvre, tu ne l'envoies pas à la garderie. Puis c'est pas juste vrai en temps de COVID, c'est vrai en tout temps. Puis là, il y a toute la question des tests qu'on va passer. Donc, il peut y avoir dans certains cas des périodes, si par exemple, après 5 jours, la fièvre est encore présente, ou encore des symptômes, puis là, si le résultat de l'autotest est positif, ben on va prolonger. Mais là, il n'y aura pas de fermeture de classe massive à partir d'un seul cas. On va tenter aussi de se le faire expliquer un peu plus tard ce matin. Ce matin, dans différents médias, Radio-Canada, la presse, on cite des cas de gens qui sont atteints de cancer et qui voient leur chirurgie reportée. Je vous en ai parlé au début de la semaine avec 2 médecins. Puis on donnait l'exemple du cancer du poumon. Avec un nodule, normalement, c'est une chirurgie et on passe à un plan B. C'est ça la réalité. Et le plan B est un traitement qui n'est pas ce qui est de façon prioritaire indiqué, mais on n'a pas le choix parce qu'on ne peut pas opérer. Alors, ça ne veut pas dire que le patient n'est pas soigné, mais il n'est pas soigné selon le protocole habituel. Et ça peut laisser des séquelles. Alors, si je t'opère pas, mais je te donne de la chimiothérapie, par exemple, ou de la radiothérapie, on s'entend que c'est assez invasif. Alors que la chirurgie aurait été le traitement indiqué, en fait, la réponse indiquée. Je vous parlais de cette femme à Le Gardeur. C'est une patiente à qui on a dit, il n'y en aura pas de chirurgie pour votre cancer du sein. Quelqu'un qui respecte scrupuleusement les règles, qui évite les rassemblements. Et vous avez d'autres cas ce matin de gens qui sont atteints de cancer et qui ne sont pas opérés. Puis là, on parle de retirer des masses cancéreuses. On n'est pas dans... Alors, quand Québec dit, vous savez, quand c'est urgent, on opère, là, le délestage fait qu'actuellement, il y a deux constats qu'on peut faire, je pense. Un, il y a des gens qui sont gravement malades et qui devraient être opérés et qui ne le sont pas. On parle pas de gens qui vont mourir dans l'heure qui vient, mais on parle de gens qui, s'ils ne sont pas opérés, le pronostic est pas joyeux. Et deuxièmement, il y a tout ce qu'on appelle le dépistage, des tests de laboratoire, des prises de sang, des examens pour justement identifier des cas de cancer ou d'autres types de maladies. Et si on peut pas les tester pour savoir s'ils ont un problème de santé, qu'est-ce que vous pensez qu'il va se produire? Mais on va se retrouver avec des patients diagnostiqués en retard, puis des patients hypothéqués, plus durs à soigner, puis plus durs à sauver. Ce qui fait que ce matin, on va lui parler au président de la Fédération des médecins spécialistes du Québec, le docteur Vincent Oliva, qui fait une sortie au nom de son syndicat pour justement plaider une nouvelle façon de gérer. En un mot, ce qu'il nous dit, c'est que on gère actuellement comme lors de la première vague, alors que c'est pas du tout ça qu'est le portrait. Il considère également qu'il faut arrêter le délestage, il faut permettre aux employés qui sont asymptomatiques de revenir travailler. Et c'est vrai que le variant, puis on le disait tantôt, est contagieux, mais il est moins virulent, puis on n'est pas dans le même contexte d'une population qui n'est pas vaccinée. Alors, en un mot, ce qu'il nous dit, puis vous lirez dans la presse ce matin également ce qu'il raconte, c'est l'engorgement des hôpitaux, ça c'est clair, et la médecine au Québec est sur pause, ce qui n'est pas normal. Il y aura toujours des gens malades, il y aura toujours des gens qui ont besoin d'être vus dans un hôpital. Mais là, il faut changer le mode de gestion de cette crise. Donc, je vais lui parler un peu plus tard ce matin. Mais c'est sûr qu'on va avoir du personnel, et on sait en nombre effarant, qui vont être testés, qui vont être en quarantaine, et il faut les ramener le plus vite possible dans le réseau de la santé pour justement, parce que les lits comme tels existent, c'est le personnel qui n'est pas là, pour pouvoir, évidemment, pour pouvoir gérer ça et s'en occuper. Dernier point que je veux soumettre ce matin à votre attention, c'est le bilan. Je sais qu'il y a beaucoup de débats sur les réseaux sociaux sur le nombre de morts au Québec de la COVID. Et ce qu'on se rend compte, évidemment, c'est que depuis le mois de janvier, depuis que le mois a commencé, là, il y a une croissance quand même assez importante du nombre de décès. Si les hospitalisations... c'est toujours, ça augmente, mais peut-être moins qu'avant. Par contre, pour ce qui est des décès, c'est élevé. Il y a Aaron Derfell, encore de Gazette, qui a publié sur Twitter son compte hier, là, espèce d'analyse, de comparaison. Puis là, je veux pas me lancer là parce que j'ai pas l'info nécessaire, mais disons qu'il en meurt beaucoup au Québec. Puis j'ai vu l'entourage politique de François Legault se manifester pour répondre, puis... C'est le personnel politique, les apparatchiks, comme on dit, essaient d'étouffer les feux pour pas avoir l'impression, là, donner l'impression aux Québécois qu'on l'a échappé avec le nombre de décès. Puis là, c'est après ça, ouais, mais il est mort de quoi? Est-ce mort de la COVID ou s'il est mort de... Puis là, les tableaux, puis bon. Mais disons qu'il y a beaucoup de gens quand même qui meurent, des gens qui seraient morts probablement de toute façon, une autre pathologie, diagnostic de COVID. Mais là, il va falloir aussi, je pense... et c'est ce qu'on va parler avec le docteur Oliva, regardez les priorités, comment on gère ça. Puis encore, ce matin, on nous dit que ça s'améliore un peu le retour au travail de certains employés, là. Puis le ministre Dubé parlait au début de la semaine d'ententes possibles pour rentrer 1000 personnes, des CHSLD où on manque d'employés. Alors, tu sais, si dans le secteur scolaire, on a pris une nouvelle orientation, c'est un changement de cap, il est peut-être le temps aussi de faire la même chose dans le réseau de la santé. Pour ce qui est des fameux tests rapides, je le sais, vous les cherchez. Là, on apprend que Québec a décidé de commander lui-même des tests parce qu'il trouve que le fédéral va pas assez vite. Avouez avec moi que c'est quand même... particulier. Le fédéral avait envoyé des tests à Québec qui n'en voulaient pas, qui étaient en train de dormir dans les entrepôts du Québec. Puis après ça, là, on décide de les déployer et considère finalement que ça prend trop de temps. Alors, on décide d'en acheter pour pouvoir... On parle de 25 millions de tests qui ont été condamnés et on espère pouvoir commencer la livraison dans les prochaines semaines. Je sais que les gens sont bien frustrés aussi avec les pharmacies parce que puis les pharmaciens eux-mêmes sont frustrés parce que ils sont pris pour gérer ça puis là la prise de rendez-vous puis alors tout ça pour vous dire donc je pense que là on a besoin des tests rapides puis les profs en veulent dans les classes aussi. Pour être capable, justement, si on est en présentiel, de le faire le mieux possible. Mais je vous le dis, on a un paquet d'invités ce matin pour faire le tour de la question. Prendre le temps aussi de vous parler du bilan routier. Les collisions mortelles au Québec ont augmenté pour la deuxième année consécutive. Ce qu'on remarque, donc, c'est une hausse de ces accidents. Puis il y a quand même des catégories, puis je lisais ça, là. Les gens de 65 ans et plus... sont davantage impliqués dans le bilan des accidents mortels. C'est-à-dire qu'il y a plus de gens de 65 ans qui meurent sur les routes. Remarquez qu'il y en a plus. La population vieillit. Mais à l'autre bout de la pyramide, chez les jeunes qui ont toujours été surreprésentés dans les bilans, dans les chiffres ce matin, il y a eu 42 décès l'an dernier. C'est 18 % des victimes. À une certaine époque, c'était 30 %. C'est donc une amélioration. Là, il faut aussi considérer les blessés graves. Mais le dernier phénomène sur lequel je me permets d'insister, c'est le port de la ceinture de sécurité. Selon le rapport entre 2020 et 2021, le pourcentage de gens décédés qui ne portaient pas la ceinture de sécurité, puis on peut présumer que le décès était causé justement parce qu'ils ne portaient pas la ceinture dans bien des cas, pas tous les cas, là, mais dans un bon nombre de cas, c'est passé de 14 à 20%. C'est quand même beaucoup. Et il y a encore toute la notion, évidemment, des vitesses, même si il y a eu cette période, je pense, à, il y a un an de couvre-feu, puis de moins, de un nombre moins élevé peut-être de déplacements, mais la vitesse, tout ça, l'alcool, ça demeure toujours des facteurs d'accident. Alors, on va vous en reparler en détail tantôt.
L'essentiel de Paul Arcan. L'essentiel de Paul Arcan.
On le disait, Québec modifie le plan de match avec le retour en classe à compter de lundi prochain, avec la fin dans quelques jours du couvre-feu, avec un passeport vaccinal qui va s'étendre aux grandes surfaces. Tout ça, on le rappelle, quand on annonce ces mesures, c'est toujours avec l'objectif de soulager le réseau de la santé, de pas trop l'hypothéquer. Or, on sait que depuis la fin du mois de décembre particulièrement et le retour en janvier, le nombre d'hospitalisations est à la hausse, un peu moins forte, mais ça continue. Et surtout, ce qu'on voit, ce sont des hôpitaux où on cherche le personnel, des employés absents et des patients qui font l'objet du délestage. Ce matin, puis j'ai donné des exemples cette semaine, mais je regardais dans la presse, je regardais à Radio-Canada, des gens qui sont en attente d'une chirurgie de cancer et qui se font repousser. Ce qui fait que la Fédération des médecins spécialistes du Québec propose justement de changer la façon de gérer cette pandémie. Le président est avec nous, Dr. Vincent Oliva. Dr. Oliva, bonjour.
Bonjour, M. Arcan.
Avant de parler de changement de gestion, là, quand on voit ces cas de cancer, des gens qui attendent, qui devaient avoir une chirurgie et que la chirurgie est repoussée, le ministre nous répète tout le temps qu'il n'y a pas de cas de cancer en attente, que les gens qui ont... et que c'est une priorité, le cancer. Là, moi, j'essaie de concilier ce que je vois dans les médias puis ce que j'entends du ministre.
Ben, c'est vrai qu'on on fait ce qu'on peut, puis si on veut, les opérations urgentes, les conditions urgentes sont traitées. On essaye de s'occuper des conditions semi-urgentes, mais actuellement, la situation change vite. Puis vous avez raison. Il y a des cancers qu'on ne traite pas aussi bien qu'on pourrait traiter.
Donc, des gens qui, normalement, auraient dû être opérés parce qu'ils ont le cancer et que l'opération est indiquée et qui ne seront pas opérés. En fait, il y a un délai là, pour l'opération.
C'est ça. C'est pas qu'ils ne seront pas traités, mais c'est qu'ils vont être traités avec des délais, ce qui fait en sorte que le stade de leur cancer peut progresser. Puis, ils vont arriver à un stade où leurs chances de survie vont diminuer. Fait que c'est un continuum, tout ça, Mais nous, on fait ce qu'on peut, mais le cancer prend pas de pause.
OK, on va y revenir tantôt. Parlons de ce que vous proposez, c'est-à-dire une façon différente de gérer cette crise. Là, actuellement, là, le focus, c'est bien sûr sur le réseau de la santé, les hospitalisations, le personnel. En quoi voulez-vous changer la gestion de la crise?
Ben, écoutez, ce qu'on veut faire, là, c'est proposer des mesures qui vont avoir un effet immédiat. OK? Puis j'en discutais hier, j'étais au CHUM, puis j'en discutais avec mon collègue Dr. Calvez, qui est souvent sur vos ondes, et puis je disais, Cal, comment ça se fait qu'il y a des travailleurs de la santé actuellement qui sont chez eux, soit parce qu'ils ont eu un contact, soit parce qu'ils sont testés positifs, mais ils sont asymptomatiques ou peu symptomatiques, puis tous ces gens-là sont pas ou peu contagieux. Comment se fait-il qu'ils sont chez eux, qu'ils viennent pas nous aider à faire des chirurgies, nous permettre de faire des consultations en médecine spécialisée, des endoscopies, des tests d'imagerie? Si on leur permettait de travailler, là, avec des conditions évidemment bien encadrées, là, on ramènerait au réseau demain matin des milliers de travailleurs de la santé. Demain matin.
Mais, docteur Oliva, je croyais que c'était déjà ça. Moi, j'avais compris dans un point de presse qu'on était pour ramener les gens qui, comme vous venez de décrire, là, sont en attente, sont peut-être positifs, mais n'ont pas de symptômes. Bref, qu'on était pour faire appel à ces employés-là. C'est pas le cas?
C'est pas toujours le cas. C'est pas systématique. Il y a beaucoup de prudence. On a été échaudés. On fait toujours référence à la COVID-19, puis dans le fond, quand le virus est apparu, il était plus virulent. Okay? Mais actuellement, le virus a changé. Puis ça, je pense que c'est un message qu'il faut qu'il passe. Il faut s'ouvrir les yeux. Okay? Faut faire un reset, puis il faut se dire, le virus, c'est plus le même qu'au début. Okay? C'est tous des coronavirus, mais c'est comme si on disait que le virus, quand il est apparu, la COVID-19, c'était le même que le SRAS. C'est des coronavirus, mais qui sont très, très différents. Puis actuellement, c'est pas le même virus qu'au début de l'apparition de la COVID-19. Faudrait plus l'appeler comme ça, d'ailleurs. On a un nom, là, c'est l'Omicron, mais on n'est plus en 2019. La situation a changé. Puis il faut le traiter différemment, puis il faut le gérer différemment.
OK. Alors, si je reprends ce que vous proposez, c'est de dire « ramenons les gens là qui sont en isolement, puis qui n'ont pas de symptômes, puis faisons-les travailler un ». Est-ce que de faire ça va atténuer le délestage, va permettre aux gens d'être mieux traités, puis en même temps d'avoir des examens pour malheureusement peut-être diagnostiquer des maladies? Là?
Beaucoup. Beaucoup et rapidement. Puis d'ailleurs, l'autre chose que ça va faire, là, on va les ramener partout dans le réseau, entre autres dans les CHSLD, où il manque de personnel. Et ça va aider à désengorger les hôpitaux parce que vous le savez, il y a des patients qu'on appelle des NSA, des patients qui n'ont plus besoin de soins actifs dans les hôpitaux puis qu'on attend de transférer. Puis, on manque de personnel dans les CHSLD, donc ça nous permettrait de sortir ces patients-là de l'hôpital pour pouvoir traiter des patients qui en ont vraiment besoin, qui ont besoin de soins actifs. Évidemment, il faut que ce soit fait dans des bonnes conditions, bien encadré, mais ce qu'on dit, là, c'est que le risque zéro n'existe pas. Sauf que le risque, là, il est très différent. Puis je comprends la prudence que ça ne reflamme pas dans les CHSLD, mais là, les patients dans les CHSLD sont triplement vaccinés. C'est un virus qui est moins virulent. On est ailleurs.
D'abord, ce que vous me parlez ce matin, est-ce que vous l'avez présenté au gouvernement?
Oui, bien, c'est des positions que... Ce que je dis publiquement, je le dis en privé aussi, là, puis ça circule dans les comités, puis j'en discute avec Dr. Opatheny, elle est d'accord avec ça.
Mais est-ce qu'ils vont le faire?
Ben, je pense qu'ils essaient de le faire. Nous, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est un espèce de réveil collectif où on se dit, ouvrons-nous les yeux, OK, puis faisons-le. Parce que c'est pas parce qu'une mesure est décidée qu'elle est adoptée, puis c'est pas non plus pour ça qu'elle percole dans le réseau puis que les gens l'appliquent. C'est un gros réseau, fonctionne souvent en silo. C'est vrai des fois qu'il y a des directives qui sont un petit peu contradictoires, puis ça, qu'est-ce que vous voulez, la science est pas toujours exacte. Mais nous, ce qu'on dit, c'est alignons-nous sur une position où on va gérer ce virus-là différemment. Puis je suis pas en train de le banaliser, OK? C'est pas le rhume, on meurt pas du rhume, OK? Sauf que quand on est triplement vacciné, ce virus-là souvent est bénin, permet d'atténuer beaucoup la sévérité de la maladie. Okay? Donc, ça, j'insiste là-dessus, là, il faut que les gens se fassent vacciner. Il faut qu'ils aillent chercher leur troisième dose dès qu'ils sont éligibles. C'est à eux qui rendent service, ils vont se protéger.
Mais là, j'entends des gens qui ont, par exemple, un parent dans un centre de soins de longue durée, des gens qui ont des problèmes de santé chronique, puis bon, des gens qui souffrent de cancer, bref, des gens qui sont malades et qui regardent là les chiffres. Puis là, depuis hier, on nous dit que le Québec est pratiquement le champion du nombre de décès depuis le début du mois de janvier. Je sais que certains contestent, mais on a l'impression que d'un côté, les hôpitaux se remplissent de gens malades, qu'il y a plus de décès, puis vous, vous dites, dans le fond, ben ramenons quand même du monde là, dans cet univers de patients vulnérables, des gens qui sont peut-être positifs.
Absolument. Ce qu'on dit, c'est que si on gère avec un risque zéro, ben c'est ce qui arrive. On regarde ça monter, puis là, on commence à penser à un niveau 5 de délestage. Moi, je veux pas entendre parler du niveau 5 de délestage. Je veux qu'on recommence à faire de la médecine. Fait que pour faire ça, il faut ramener des gens dans le réseau. Il va avoir un risque. Le risque zéro n'existe pas, mais le risque est très faible. Mais ce que ça va nous permettre de faire, c'est traiter des patients qui sont déjà malades. Eux autres, ces patients-là, là, il n'y a pas de risque. Le risque est à 100 parce qu'ils sont déjà malades, puis on ne les traite pas. Alors, il faut recommencer à les traiter, ces patients-là. On a pris beaucoup de retard, puis je pense qu'il faut changer complètement notre façon d'aborder cette maladie-là. Vous savez, ce virus-là, là, il est très différent. Il se développe à une vitesse vertigineuse, mais il se spécialise dans les muqueuses des voies respiratoires supérieures. Ça veut dire la gorge, la bouche. Okay? Il descend très peu dans les poumons. Les patients qui ont des atteintes sévères des poumons, là, c'est soit des non-vaccinés ou des patients qui ont une atteinte de l'immunité ou des variants Delta, mais qui est en train de disparaître. Okay? Donc, avec ce virus-là, la triple vaccination, on en fait une maladie qui est très souvent bénigne. Puis oui, on peut recommencer à faire de la médecine qui ressemble à de la médecine normale.
Et on a vu un changement dans le discours. Il y avait cette fameuse phrase qui était de dire qu'il faut apprendre à vivre avec le virus. Et là, ce que j'entends, je voyais ça en France et en Europe de façon générale, c'est ce virus-là, il faut apprendre à s'en protéger, mais de continuer à vivre.
Absolument. Puis c'est vrai pour le réseau de la santé, puis c'est vrai pour la société. Puis la grande majorité des travailleurs dans le réseau de la santé sont triple vaccinés. Alors ça, pour moi, si on le gère différemment, on est capable de faire une médecine qui ressemble à une médecine normale puis arrêter de délester. C'est la même chose dans la société. Si la société était complètement vaccinée, on fonctionnerait presque normalement. C'est vrai que ce virus-là, il faut y faire attention. Puis encore une fois, je ne le banalise pas parce qu'il peut dégénérer. Mais les cas où ça dégénère, là, c'est la minorité des patients. Et puis, il faut reconnaître ça, que le virus a changé, ce n'est pas la même maladie.
Et ceux qui sont le plus durement touchés, là, de ce que je comprends dans vos propos, évidemment des gens qui ont déjà des maladies graves, des gens qui, par exemple, sont en traitement de cancer, immunosupprimés, puis des gens qui sont pas vaccinés.
C'est principalement ça. C'est principalement ça. Donc, oui, il y en aura toujours des patients qui vont avoir besoin de plus d'attention. C'est sûr que si les citoyens étaient adéquatement vaccinés, ben ça enlèverait une grosse proportion des patients qui ont besoin de soins très actifs, dont des soins intensifs. Donc ça, je pense que c'est un point sur lequel il faut absolument insister. Puis j'en entends souvent qui disent, ben je prends des suppléments pour renforcer mon système immunitaire, etc. Mais le système immunitaire a beau être fort, là, c'est qu'il est peu éduqué. Je veux pas être insultant, mais c'est comme si leur système immunitaire était ignorant. Fait qu'on a beau avoir une armée avec des soldats musclés, là, mais s'ils savent pas qu'il y a une attaque qui s'en vient, là, ils vont se faire avoir. Fait que le vaccin, c'est ça qu'il fait. Il réveille les soldats, il dit, il y a une attaque qui s'en vient, puis à part ça, regarde, c'est de ça qui a l'air l'ennemi. Je te montre une photo. Fait que sortez de la caserne puis allez au combat. Fait que c'est un peu figuré, mais ce que je dis, là, c'est que c'est pas suffisant d'avoir un bon système immunitaire. Il faut l'exercer, il faut l'entraîner, il faut le stimuler.
Docteur Oliva, merci d'avoir été avec nous. Bonne journée.
Bonne journée.
Au revoir. Docteur Vincent Oliva, qui est radiologiste d'abord et président de la Fédération des médecins spécialistes du Québec.
L'essentiel de Paul Arcand.
Dans les prochaines minutes, on va parler des écoles, on va parler des CPE également, mais dans un premier temps, on va se concentrer sur l'opération vaccination. Il y a des nouvelles recommandations et surtout, on a élargi pour la prise de rendez-vous. Daniel Paré, qui est le directeur général de la gestion exécutive et opérationnelle de la pandémie, est avec nous. Monsieur Paré, bonjour.
Ben bonjour, Monsieur Arquin.
Juste pour qu'on soit bien clair, là, les gens qui ont 25 ans et plus peuvent s'inscrire pour un rendez-vous.
Et oui, et dès demain, ça sera les 18 ans et plus. Donc, tous les adultes pourront prendre rendez-vous là, pour leur troisième dose là, dès demain.
OK. Juste comprendre également, là, le fait qu'on accélère, c'est parce qu'on a plus de personnel pour vacciner, parce qu'on va se le dire franchement, on a parti la vaccination de la troisième dose un peu en retard, là.
Oui, effectivement, là, au niveau de nos sites de vaccination, beaucoup plus de capacité. Les gens de Je Contribue ont levé la main, on en est bien fiers, bien contents. Et là, effectivement, on est capable de prendre du volume additionnel pour prendre, dans le fond, la troisième dose pour toute la population.
OK. On est à quel pourcentage de vaccination chez pour les troisièmes doses?
On est rendu à plus de 26-27%. Ça évolue. On gagne un point, un pourcentage ou un pourcentage et demi là, à tous les jours. On est à un rythme là, de 110 000 doses de vaccins de façon journalière. On en est bien content.
OK. L'autre question, il y a des gens qui m'écrivent, là, puis je vous soumets ça, qui ont pris des rendez-vous, par exemple, et la date qu'ils ont eue, c'est le 23 février. Ils trouvent ça bien loin. Est-ce que ça veut dire qu'avec la nouvelle capacité, ils peuvent devancer?
Oui, cette option-là est toujours disponible. Avec l'exemple que vous me donnez là, ça ferait du sens là, d'être capable d'avancer. Mais pour avancer pour deux jours, parce qu'on a ces demandes-là des fois, ben peut-être de justement laisser la chance aux gens là où c'est beaucoup plus lointain leur rendez-vous. Ben encore là, c'est possible sur le site Clic Santé ou bien là sur notre site téléphonique.
Je veux vous parler de la vaccination dans les écoles. D'abord, on regarde le pourcentage, ça semble pas très élevé. Le Devoir dit ce matin qu'il y a beaucoup, beaucoup d'élèves, là, on parle d'à peu près 60 000 élèves à vacciner, des écoles, enfin même des classes, il n'y a pas 5% des élèves de vacciner. Il se passe quoi avec les enfants?
Écoutez, c'est un problème qui est national. Quand je parle avec mes homologues des autres provinces, il n'y a pas beaucoup d'appétit pour la vaccination là, des tout-petits, des 5 à 11 ans. Encore là, nous, ce qu'on fait, on l'a rendu accessible. On s'est déplacé dans la très grande majorité des écoles. On a ouvert la vaccination dans nos sites de masse. On fait beaucoup de publicité. Et je le vois là, dans mes données, là, on grappille 1% à peu près par semaine. Là, ça fait que, oui, c'est plus lent, mais vous me permettez là, d'inviter les parents, de donner leurs enfants. C'est un vaccin qui est sécuritaire, qui peut faire la différence. Puis aussi, il faut, dans une autre de nos hypothèses, c'est qu'on sait qu'il y avait quand même eu plusieurs éclosions là, avant la période des fêtes. Comme vous savez, on avait un message d'attendre pendant au moins 8 semaines avant d'avoir une dose de rappel. C'est peut-être un élément aussi là, qui fait que notre taux de vaccination avec les rendez-vous est à 61% ce matin.
OK. Je comprends que vous n'êtes pas le directeur de la santé publique, là, mais on a de la misère à comprendre l'idée de vacciner pour la troisième dose, quelqu'un qui vient tout juste de sortir là, d'une période avec des symptômes de COVID. Le Dr Weiss nous disait qu'il fallait attendre 3 mois pour X raisons. Pourquoi on a décidé de devancer ça? Qu'est-ce qu'on vous explique là-dessus?
Je pense que c'est plus dans une notion d'un message là, pour la population. Juste à titre d'exemple, aux États-Unis, c'est déjà comme ça. Après les symptômes, on se fait vacciner. Le comité canadien, au niveau des d'immunisation, dit la même chose. Après les symptômes, allez vous faire vacciner. Au Québec, on avait une recommandation de 8 semaines. On sait que malheureusement, avec la diminution là, des tests de dépistage, l'avez-vous vraiment eu la COVID ou pas, etc. Plus difficile à comprendre. Puis je pense que le directeur national de la santé publique a voulu clarifier, avoir un message unique que oui, la troisième dose est importante, venez la chercher. Et aussitôt que les symptômes de la COVID là, sont terminés, pour venir dans un site de vaccination.
OK. Là, je comprends qu'on a pris la cadence. Mais pourquoi ça nous a pris autant de temps à la donner, cette troisième dose? On est parti en retard, M. Paré.
Encore une fois, là, c'est toujours des hypothèses, mais quand on regarde nos recommandations qu'on avait, vous le savez, jusqu'au 17 décembre, on devait avoir un intervalle de 6 mois entre les doses, ce qui pénalisait grosso modo 5 millions à peu près de Québécois. Quand je dis pénalisé, c'est qu'on ne pouvait pas l'offrir, la dose de vaccination. À partir du 17 décembre, on est descendu à 3 mois, et c'est là vraiment là, qu'on a pu structurer là, nos sites de vaccination là, pour avoir la cadence qu'on a aujourd'hui. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, on roule à plein régime et ça va être comme ça pendant les prochaines semaines.
OK. C'est quoi le ratio que vous avez, Pfizer, Moderna, dans les stocks?
présentement, je vais prendre votre terme, nos stocks Pfizer est plus bas. Mais j'ai eu des confirmations du gouvernement fédéral là, que j'en recevrai au cours des prochaines semaines. Mais permettez-moi encore là de dire à vos auditeurs, venez pas chercher un nom de vaccin. Venez chercher une dose de rappel. C'est deux ARN messagers comparables. Tous les scientifiques s'entendent là-dessus. Et c'est ça qui va nous protéger.
OK, mais là, juste que je comprenne bien, là, ce que vous me dites dans le fond, c'est qu'on a des... moins de Pfizer que l'habitude, mais vous allez regarnir les coffres.
Oui, okay. mais j'ai du Moderna.
Vous avez du Moderna, OK. L'autre chose, est-ce que c'est vous qui gérez les tests rapides?
Au niveau de la distribution, oui.
OK. Là, est-ce que je comprends que Québec a acheté directement des tests rapides? Là, j'ai vu comme 25 millions de tests parce que vous trouvez que le fédéral va pas assez vite?
Écoutez, c'est des tests rapides. J'aimerais en avoir plusieurs millions dans mes coffres présentement pour être capable de les distribuer. Ce que je sais présentement, c'est que le gouvernement fédéral va nous livrer 31 millions. Ils ont déjà commencé pour le mois de janvier. Mais effectivement, là, dès décembre, au niveau du centre d'acquisition gouvernemental, on avait donné le mandat d'aller en chercher là, de façon plus rapide. Et vous me parlez de 25 millions, mais vous allez voir là, très bientôt une autre belle nouvelle là, avec un manufacturier là, québécois là, qui va en produire chez nous et qui va aussi augmenter le nombre de tests rapides disponibles que je serai capable de distribuer partout sur le territoire.
C'est drôle, hein? On appelle ça un paradoxe. On a fait dormir des tests rapides que le fédéral a envoyés dans des entrepôts pendant des mois. Puis là, c'est la folie, c'est la course aux tests rapides.
Ben, écoutez, vous savez, j'ai débuté là, mes responsabilités avec ces tests rapides-là en septembre-octobre. On les avait distribués très, très, très rapidement au niveau des écoles. Je peux vous dire qu'il n'y a aucun de ces tests qui dort sur des tablettes. On les distribue. Un des enjeux qu'on a avec nos tests rapides, souvent, c'est l'emballage. Des paquets de 5, des paquets de 10, des paquets de 25. Donc, nous, on doit s'assurer là, d'avoir le bon emballage pour le bon groupe. Mais je peux vous dire qu'on les utilise tout le présent.
OK. Et puisqu'on parle des tests rapides, ça veut dire que ça va être distribué aussi dans les écoles. S'il y a un retour en classe, là, les écoles vont être équipées de tests rapides.
Oui, effectivement. Là, cette semaine, on a priorisé au niveau de nos services de garde parce qu'on les avait donnés, eux, là, un petit peu plus tôt là, au mois de décembre. Donc, c'est une deuxième livraison. C'est des gens non vaccinés. Pour nos écoles primaires, on va les livrer là, dès la semaine prochaine et la semaine subséquente. Toujours des paquets de 5. Et ça, on va le faire jusqu'à temps justement que le taux de vaccination là, soit plus élevé là, et que les gens ont eu la chance d'avoir leur deuxième dose.
OK. Juste une dernière question. Je ne sais pas si ça relève de vous. Les fameux masques que les enseignants réclament, là, est-ce que c'est vous qui les avez en stock?
Malheureusement, non. Okay. Écoutez, ce bout-là, okay. Je pense que nos autorités scientifiques pourraient mieux répondre là, à cet élément-là.
Parfait. Merci, M. Paré. Bonne journée.
Bonne journée à vous.
Au revoir.
Merci beaucoup.
Daniel Paré est le directeur général de la gestion exécutive opérationnelle de la pandémie.
L'essentiel de Paul Arcan. L'essentiel de Paul Arcan.
Maintenant, avec nous, le ministre fédéral de la Santé, à qui on a un certain nombre de questions à poser. Monsieur Duclos, bonjour.
Bonjour, Monsieur Arcan. Bonjour à tous ceux qui nous écoutent.
Je commence avec un peu la suite de ce que j'ai posé comme question à Monsieur Paré. Là. Les tests rapides pour le Québec, là, vous en avez réservé combien? Puis ça va arriver quand?
Ben, trois choses là-dessus, M. Arcan. La première, c'est que vous l'avez abordé avec M. Paré il y a quelques instants. Durant très longtemps, il y avait, et c'est pas un blâme, là, c'est un constat, très peu de demandes de la part de certaines provinces là, pour ces tests rapides. Donc, il y en a eu très peu là, qui ont été utilisés, mais c'est correct parce qu'il y avait d'autres priorités à traiter. La deuxième, c'est qu'on a multiplié par 5 en décembre le nombre de tests rapides que les provinces dont le Québec avait demandé, puis on a réussi à le faire rapidement. Et on multiplie à nouveau par 4 en janvier parce que la demande est évidemment très forte et que plusieurs de ces tests ont déjà été livrés, mais beaucoup sont à venir. On nous dit là, qu'il y a quelques jours, il y a 3 millions de tests rapides du fédéral là, qui étaient disponibles en pharmacie. Ça vient du gouvernement canadien. Mais il y en a d'autres là, qui vont venir, évidemment, parce que la demande est très forte partout au pays.
OK. L'autre chose, et j'en ai parlé avec le Dr Weiss, là, ce sont les traitements, les on peut appeler ça les pilules anti-COVID qui sont en attente d'approbation. Qu'est-ce que vous savez là-dessus?
Ce qu'on sait là-dessus, c'est que le processus est accéléré, le processus d'approbation est accéléré. Le gouvernement, le Santé Canada, les experts indépendants, évidemment, des pressions politiques qui travaillent là-dessus depuis déjà quelques semaines. La soumission a été reçue 6 semaines plus tard que les Américains. Donc, ça explique un petit peu là, pourquoi ça a été plus long, légèrement plus long ici au pays qu'aux États-Unis. Mais le fait que les États-Unis ont accepté il y a déjà quelques temps, quelques 2-3 semaines, je pense, le produit accélère et facilite l'approbation par Santé Canada. La décision va être annoncée prochainement, qu'on me dit. Et ce qui est encore tout aussi important, c'est qu'on travaille très étroitement avec les provinces et les territoires. J'ai des conversations avec eux depuis plusieurs semaines pour que, si la décision est positive, ce médicament soit rapidement disponible en milieu clinique au Québec.
Maintenant, êtes-vous toujours un partisan de la vaccination obligatoire?
Je sais que l'interprétation de vaccination obligatoire varie. Évidemment, j'espère que personne qui nous écoute là, pense là, qu'au Canada, on envisage ou que quelqu'un envisage de forcer physiquement quelqu'un à se faire vacciner. Mais la vaccination obligatoire, ça fonctionne. Nous, on l'a imposé au fédéral à peu près à tous les niveaux pour lesquels on peut le faire, pour les travailleurs de la fonction publique, pour les gens des forces armées, pour la GRC, pour tous les déplacements en avion et en train, pour la frontière. Donc, on a fait tout ce qu'on pouvait pour l'obliger, cette vaccination obligatoire. Et ça fonctionne, M. Arcan. Il y a 99% des fonctionnaires fédéraux qui ont choisi de se faire vacciner. Et donc, l'impact est significatif pour la capacité de chacun de se protéger du variant de la COVID.
Je comprends là, qu'on n'ira pas chercher les gens sur la rue. Là, c'est pas ça. Je pense qu'on saisit très bien, mais... Quand vous parlez, vous, de vaccination obligatoire, là, vous parlez de quoi concrètement? D'imposer des mesures, un passeport vaccinal plus sévère, comme ce qu'on entend du côté de Québec, là, de l'élargir aux grandes surfaces. Vous pensez à quoi concrètement?
Bien, c'est ce que je pense à tout ce qu'on a fait, nous autres, au gouvernement canadien. À nouveau, je ne vais pas tout répéter, mais tous les travailleurs, tous les déplacements aériens, ferroviaires et tous les déplacements à travers la frontière sont maintenant couverts par une obligation vaccinale. Alors, ça fonctionne. Beaucoup, beaucoup de gens. On estime à peu près à 700 000 le nombre de personnes au Québec qui, au cours des derniers mois, se sont fait vacciner, se sont protégés en raison des obligations vaccinales du fédéral et des provinces et du Québec, évidemment, pour le Québec. Donc, ça marche. On aurait 700 000 moins de gens vaccinés maintenant au Québec si ces obligations vaccinales n'avaient pas été mises en place au cours des derniers mois.
Êtes-vous d'accord avec la stratégie d'emmerder les non-vaccinés?
Ben, ça dépend ce qu'on veut dire par emmerder.
Ben, leur mettre des bâtons dans les roues, c'est-à-dire leur empêcher d'avoir accès à un certain nombre de commerces, puis en fait, restreindre leur liberté.
Ben, je dirais que le mot-clé ici, c'est bienveillance. La bienveillance est importante. Là. La raison pour laquelle on met ces obligations vaccinales, c'est pour protéger les gens, et en particulier de protéger les non-vaccinés. Parce que ces gens qui ne sont pas vaccinés sont vulnérables quand ils se déplacent, quand ils vont au milieu de travail, quand ils prennent les transports. Donc, on veut les protéger parce qu'on sait que si quelqu'un de non-vacciné attrape la COVID-19, les conséquences sanitaires, santé, peuvent être très graves. Alors, c'est vraiment dans un objectif de bienveillance. En plus, ça a d'autres objectifs. Ça protège ceux qui sont vaccinés aussi. Enlève la pression sur nos travailleurs de première ligne en milieu de santé, et ça nous permet de passer plus vite à travers cette crise de la COVID-19.
OK. Dans votre interprétation, est-ce que la taxe pour les anti-vax, donc la contribution financière majorée, cotisation à la caisse de santé, c'est légal selon la loi de la santé publique au Canada?
Bien, trois choses, premièrement. La première chose, c'est qu'on ne connaît pas le détail des mesures, et le détail est important. La deuxième chose, c'est que toutes les provinces, et le Québec aussi, j'ai eu des échanges dernièrement réguliers avec le gouvernement du Québec, tout le monde s'entend pour s'assurer du respect des principes du système de santé au Canada, dont le principe d'universalité, d'accès aux soins de santé. Il est hors de question de faire en sorte que les soins de santé ne soient pas disponibles aux Canadiens, aux Québécois, en raison de leur choix dans la vie, des conditions de vie, de leurs revenus, de la capacité de payer. La troisième chose, c'est que les provinces et les territoires choisissent et doivent choisir les moyens par lesquels elles désirent encourager la vaccination. La vaccination universelle, c'est la seule façon de se débarrasser à court et à long terme de la COVID-19. Les mesures que les provinces choisent là, pour aller de l'avant.
Mais M. Duclos, là, je comprends le grand discours, là, mais ma question est bien simple. Êtes-vous d'accord à ce que les non-vaccinés payent plus pour le réseau de la santé? On ne parle pas de les empêcher d'être traités, on ne parle pas de leur bloquer l'accès. Là. On dit vous êtes à un risque plus élevé, donc vous allez payer plus. Êtes-vous d'accord avec le principe?
Bien, les gens se posent la question, ils me posent la question aussi.
Mais je vous la pose à vous. Là.
Moi, comme élu fédéral, ma responsabilité, c'est de m'occuper des mesures fédérales. La deuxième chose que je dois dire, c'est que la mesure du Québec, je ne la connais pas.
Non, je vous parle du principe. Le principe de dire quelqu'un de non vacciné qui se retrouve à l'hôpital coûte plus cher, doit payer plus cher. Des gens qui sont à risque doivent... Êtes-vous d'accord? Il y en a qui ne sont pas d'accord avec ça. Je vous demande, vous, personnellement, êtes-vous d'accord que les gens non vaccinés payent plus?
Ben, je vais vous dire ce sur quoi je suis entièrement d'accord et donc ce sur quoi je ne serai pas d'accord. Je suis tout à fait d'accord avec le maintien, et s'il faut, je travaillerai avec les provinces et les territoires pour m'assurer que ça se passe, que fonctionne une commission, le maintien de l'accessibilité universelle aux soins de santé. Il ne faut pas que les mesures...
Mais là, vous ne répondez pas à ma question pantoute. Je ne sais même pas avec quoi vous êtes d'accord en désaccord. Honnêtement, je ne saisis pas. Je ne vous parle pas de traiter les gens. Je vous parle de faire payer plus des gens qui ne sont pas vaccinés. Si vous, vous payez 500 par année, eux paieraient 1000. Êtes-vous d'accord avec le principe?
Ça, c'est au Québec à décider, M. Arcan.
Non, mais vous,
de mes affaires.
Mais vous êtes député du Québec.
Mes affaires, c'est d'encourager la vaccination obligatoire, m'assurer que tout le monde a accès à des soins de santé universels et m'assurer qu'on sorte de cette crise.
Dites-moi dans ce temps-là que vous ne voulez pas me répondre, c'est plus simple.
mais non, écoutez, premièrement, la plupart des gens, quand quelqu'un répond, il doit avoir des détails pour pouvoir répondre. Moi, je ne sais pas, M. le Marquand, vous avez peut-être plus d'idées que moi.
Non, mais des fois, il y a des principes avec les... Il y a des gens qui sont contre ça, qui n'ont même pas les détails, qui disent on n'a pas à être... on ne doit pas les faire payer plus, ceux qui ne... C'est une question de principe. Il n'y a personne qui a les détails, puis il y a des gens quand même qui se prononcent là-dessus, pour ou contre.
Ben, je veux vous dire que si le principe de faire payer les gens les empêche d'accéder à des soins de santé, ça, je suis contre.
OK. Puis si ça ne les empêche pas d'avoir des soins, mais que ça leur coûte plus cher?
Ben ça, c'est à voir avec la mesure qui va être mise en place.
Okay,
moi, j'ai l'assurance des provinces et des territoires, et du Québec en particulier, que ce qu'ils vont mettre en place, on ne sait pas encore, mais ce qu'ils vont mettre en place ne va pas interdire ou même restreindre l'accès à des soins universels au Québec ou ailleurs au pays.
OK. Merci, M. Duclos. Jean-Yves Duclos est le ministre de la Santé du Canada.
L'essentiel de Paul Arcand.
Vous savez que les écoles... C'est le gros sujet de préoccupation. On annonce le retour lundi. Mais annoncer le retour, c'est une chose. Mais quelles sont les modalités, puis comment les écoles se préparent? Puis heureusement, la nouvelle est tombée hier. Puis on le sait, là, cette espèce de réflexe de dire « Ah, le système d'éducation va se revirer de bord rapidement. » Pas vrai. Les directions d'école, les profs, les parents ont besoin de voir venir. Alors, on est jeudi, c'est pour lundi. Nicolas Prévost, le président de la Fédération québécoise des directions d'établissements d'enseignement, est avec nous. Monsieur Prévost, bonjour.
Bonjour, Monsieur Arcan.
Bon, êtes-vous prêt pour lundi, vous?
Oui, on va être prêt pour lundi, mais on devra compter sur la compréhension des parents dans les prochaines semaines. C'est clair, net et précis. Pour imaginer un peu le rôle de la direction présentement, il va regarder, si je vous donne exemple, une école primaire de 15 classes, il va vérifier, bon, j'ai combien de profs qui vont me manquer, combien de TES, est-ce qu'ils sont isolés 5 jours ou 10 jours, parce que dépendamment du statut vaccinal, c'est 5 ou 10, et on ne le connaît pas, hein, le statut vaccinal du personnel, donc il faudra s'informer. Par la suite, est-ce qu'on a du monde pour remplacer? Si oui, tant mieux. Sinon, ben il y aura peut-être des classes là, qui devront rester à la maison, malheureusement.
OK. Sur les modalités, est-ce qu'on vous a communiqué le détail? Par exemple, c'est le retour du port du masque, non seulement dans les déplacements, mais dans les classes. Est-ce que c'est comme ça que ça va se passer?
Ben, il y a deux choses là, qui vont nous être présentées. On n'a pas les documents officiels encore. On a eu une rencontre hier soir où on nous a exposé les grandes lignes. Dans un premier temps, le protocole sanitaire. Là, donc, on sait maintenant qu'il n'y aura plus d'enquête de la santé publique, là, à savoir pour de l'isolement préventif. Donc, l'élève qui a le COVID s'en ira à la maison, puis après 5 jours, s'il n'y a pas de symptômes, plus de fièvre, il va devoir passer un test rapide. Si le test rapide est négatif, c'est retour à l'école. Donc, on nous a présenté les grandes lignes de ce protocole-là. On nous a présenté des grandes lignes du protocole de contingence. Contingence, on entend par là comment on pourra aller se chercher des bras supplémentaires pour remplacer le personnel qui sera absent, mais on n'a pas les documents officiels entre les mains.
OK. En termes de tests rapides, là, le ministre nous a dit oui, puis M. Paré nous a dit oui également, là, qu'il y aura une distribution pour les écoles. Est-ce que c'est un enjeu, les tests rapides aussi, de ce côté-là, là, vous êtes quand même bien équipés?
Ben, présentement, ça reste encore un enjeu parce que on les a toujours pas. Là. On nous annonce qu'ils sont disponibles en façon en quantité suffisante. Nous, on a demandé qu'elles soient aussi disponibles pour les élèves du secondaire, même les élèves en formation professionnelle, en formation générale des adultes et non pas seulement au primaire. On a fait la demande des masques N95. On nous dit que oui, probablement dans les classes spécialisées. Pour le reste, on étudie tout ça présentement. Donc, il y a encore des choses à éclaircir là, au moment où on se parle. Et c'est ce que nos directions d'école ont encore une fois besoin là, d'ici la rentrée de lundi.
OK. Souhaitons là, que les équipements requis et tout ça. Puis juste au niveau de la ventilation, là, parce que c'est un enjeu dans beaucoup de classes, là, puis on est en hiver surtout, là. Est-ce que, à votre connaissance, il y a beaucoup d'écoles, beaucoup de classes au Québec où ça va être un problème, la ventilation, où c'est un problème actuellement?
Oui, il y a quand même un certain pourcentage de nos classes là où c'est une problématique au niveau de la ventilation. Là, on le sait, les lecteurs de CO2 commencent à entrer tranquillement pas vite, où on aura une lecture précise de la qualité de l'air dans les classes. Mais oui, ça reste une préoccupation pour certaines classes, c'est clair, net et précis. Maintenant, la ventilation, l'ouverture des fenêtres, on l'a dit depuis le début, bon, en saison hivernale, c'est beaucoup plus difficile. Donc, il faudra aussi, de ce côté-là, trouver des mesures alternatives qu'on n'a pas présentement.
Moi, je ne suis pas un expert, là, mais je comprends qu'on va installer des CO2, en fait, des lecteurs de CO2 partout, là. Mais tu dis, est-ce qu'on n'est pas mieux de mettre un échangeur d'air avant de... Il me semble que c'est ça qui presse. Je regarde dans d'autres juridictions, là, c'est un peu le plan de match qu'on suit. Vous en pensez quoi, vous? C'est le CO2 en premier ou l'échangeur d'air?
Ben ça devrait être ça devrait être les échangeurs d'air. Le CO2, c'est pas une mauvaise chose. Ça va nous donner la qualité de l'air. Okay, mais si on n'a pas de solution, si on n'a pas de solution alternative, si la qualité est mauvaise, que j'ai un lecteur de CO2 ou pas, ça donne pas grand-chose. Donc, c'est vraiment d'avoir ça. Puis je vous dirais, je veux juste souligner le travail incroyable de nos directions d'école. Je sens encore qu'on va se revirer de bord, qu'on va avoir des nouvelles choses à faire, puis je tiens vraiment à souligner leur travail, c'est très important.
Parce que vous faites bien de le faire, puis tous les gens du réseau de l'éducation, les profs également, les personnels de soutien, parce que c'est sûr que c'est important que les enfants retournent, mais on comprend très bien là que dans les premières semaines, vous allez gérer les absences des enfants, du personnel, le va-et-vient jusqu'à un certain point, là, puis que tout ça, là, dans un contexte où déjà il y a une pénurie de main-d'œuvre, ça sera pas simple pour personne. Là.
Ah, ça sera vraiment pas simple. Et on le sait, puis on va être là, on va être au poste, M. Arcand, ça c'est officiel pour nos élèves. On veut juste compter sur la compréhension, je le répète, des parents, parce que il y aura peut-être des journées où on devra appeler pendant le jour parce qu'on n'aura pas de chauffeur d'autobus, on aura eu des absences de dernière minute et on devra retourner des élèves peut-être à la maison. C'est pas ce qu'on souhaite, mais c'est ce qui pourrait arriver. Puis oui, ça occasionne beaucoup de travail supplémentaire pour nos directions d'école. Et je peux vous dire qu'il n'y a pas une journée où nos directions ne se posent pas la question parce que les gens se comparent. Pourquoi en éducation, en santé, les cadres sont payés en temps supplémentaire et en éducation, c'est pas le cas. C'est une demande aussi qu'on a fait depuis 2 ans et malheureusement, on n'a pas beaucoup d'écoute.
C'est dommage, mais on compte sur vous puis vos collègues, M. Prévost. Merci beaucoup, bonne journée.
C'est très gentil à vous, encore une fois. Merci beaucoup.
Nicolas Prévost est le président de la Fédération québécoise des directions d'établissements d'enseignement. Puis dans le fond, c'est de dire aux parents, faites preuve un peu de compréhension parce que c'est clair que ça change presque à la dernière minute, puis que là, il faut s'ajuster. Puis c'est un peu l'inconnu, c'est un changement de cap là pour le retour en classe, puis les nouvelles règles de santé publique. Avant, là, je vais vous faire entendre le Dr Weiss, qui était en entrevue mardi avec nous, concernant le délai entre la troisième dose puis quelqu'un qui a eu la COVID. Là, je comprends là qu'on n'a pas les mêmes tests qu'avant, mais quand tu testes positif puis que tu as eu les symptômes, on peut présumer que tu as eu la COVID quand même assez facilement. Voici ce qu'il disait sur le délai entre quelqu'un qui a eu la COVID et la troisième dose?
Idéalement, il faut attendre un minimum de 3 mois. Je vous dirais, si vous avez eu un test de COVID positif prouvé et que vous avez déjà eu vos 2 doses et que vous finissez à ce moment-là, entre guillemets, votre épisode aigu de COVID, à ce moment-là, oui, il faudrait attendre à peu près un minimum de 3 mois pour avoir, je vous dirais, votre 3e dose.
Bon, et la raison pour laquelle il recommande cette 3e dose, c'est que déjà, ayant eu la maladie, le système de défense, évidemment, est mieux préparé. Et troisièmement, de revenir avec une dose 3 mois plus tard, ça vient, comme on le fait actuellement, renforcer davantage la protection contre le virus. Et là, je comprends la notion que prouver, là, mais prouver aussi, là, quelqu'un qui dit « moi, j'ai eu des symptômes, puis j'ai testé rapide, positif », la probabilité est assez élevée. Maintenant, il y a une autre directive qui est tombée hier dans le décor. Ça, c'est autre chose. Pas moi qui vais me prononcer là-dessus, mais je voulais à tout le moins vous faire entendre les deux côtés de la médaille sur cette question-là.
L'essentiel de Paul Arcand.
Parlons de la situation dans les centres de la petite enfance. Il y a beaucoup de parents aussi, là, parce qu'on sait que là, les protocoles ont changé, puis on était mêlés un peu tout le monde. Il y avait Québec qui est allé avec une directive. Après ça, Montréal a dit non, non, c'est pas demain que ça marche. Finalement, Québec s'est ajusté. Geneviève Bellil est la directrice de l'Association québécoise des centres de la petite enfance. Madame Bellil, bonjour.
Bonjour à vous.
C'est quoi le protocole dans les CPE pour les cas de COVID?
Donc, le 30 décembre, on avait émis une directive où il n'y avait plus d'isolement pour les enfants qui avaient été en contact avec la COVID au CPE. Le 4 janvier, il y a eu comme un retour en arrière et là, on a ramené 10 jours. Et là, ce qu'on comprend, c'est qu'aujourd'hui, il devrait y avoir une annonce pour revenir, dans le fond, annuler les fermetures de groupe et quand il y a un cas qui est confirmé, et maintenant avoir des isolements de 5 jours pour les enfants qui auraient la COVID. Donc, c'est des documents qui ont circulé cette semaine là, puis qui devraient nous être confirmés en date d'aujourd'hui.
OK. Ça veut dire concrètement, là, pour les parents qui écoutent, il y a un enfant à la garderie, vous avez des tests rapides, l'enfant a peut-être des symptômes. Donc, lui, l'enfant, il retourne à la maison et les autres ne quittent pas, les autres du groupe sont pas obligés de quitter, là.
C'est ça. Donc, avant, on considérait que les enfants qui avaient passé la journée ensemble parce qu'ils n'avaient pas de masque, parce qu'ils n'avaient pas de distance, pas de vaccin, que c'était un risque élevé et donc on fermait le groupe. Maintenant, on fera plus ça. Donc, on va faire une bonne gestion des symptômes. Ça, je vous dirais que ça va être notre allié numéro 1 parce que pour le moment, les approvisionnements de tests rapides n'ont pas été faits. Donc, dans la grande majorité, les CPE n'ont plus de tests à donner aux parents. Donc, on va faire le suivi des symptômes, on va espérer avoir rapidement des tests et ça va être ces deux outils-là qui vont aider à faire le suivi potentiellement d'une éclosion.
Est-ce que vous avez actuellement beaucoup d'éclosions dans les CPE?
Je vous dirais qu'on a quand même fermé beaucoup de groupes dans les derniers jours. Des grosses éclosions, il n'y en a pas eu beaucoup. Je voyais qu'on en rapportait à peu près là, 25 là, pour la semaine dernière qui était active. Donc quand même, on réussit tout de même à faire une bonne gestion. Mais la semaine passée, il faut dire que la fréquentation était moins grande. C'est sûr qu'avec le retour à l'école la semaine prochaine, là, on risque d'avoir une fréquentation, je vous dirais, plus importante. Donc il va falloir vraiment suivre la situation.
OK. Il y a des enfants, mais il y a aussi des éducatrices. Est-ce qu'il y a pénurie? Est-ce qu'il y en a qui sont, parce qu'ils sont éducatrices, parents aussi, qui doivent se placer comme ça à l'écart pendant une certaine période de temps?
Oui, donc c'est sûr que pour les contacts à la maison, donc l'éducatrice va devoir faire son 5 jours si elle l'a attrapé ou s'il y a quelqu'un dans sa famille qui l'a. Si c'est au CPE qu'il y a un enfant qui a été présent avec la COVID, donc l'éducatrice ne sera pas isolée. Donc, il va falloir avec elle aussi faire une bonne gestion là, des symptômes. Pour les éducatrices, on a réussi à obtenir des tests PCR. Donc, à partir de samedi, elles pourront aller pour des tests PCR. Pour le moment, par ailleurs, on n'a pas de tests rapides pour elles. Donc, on espère que les tests PCR, les retours vont être rapides parce que ça pourrait occasionner des gros prix de service.
Et en terminant, on va rappeler une chose qui a l'air insignifiante parce que ça devrait être tellement un réflexe normal. Un enfant qui a des symptômes, on ne l'envoie pas au CPE.
Non, dans le fond, il faut vraiment... Puis on avait un bel outil sur le site du gouvernement là, qui nous permettait de manière un peu dynamique avec les familles de les aider, là, identifier s'il fallait ou non apporter l'enfant Je vous dirais que ça, c'est quelque chose qui a beaucoup bougé. Le nez qui coule pas, la fièvre, pas de fièvre, combien de temps, diminution de symptômes. Moi, je m'attends là, qu'avec, en tout cas, ce que j'ai pu lire dans les journaux et ce qui a circulé là, de manière informelle, que tout le volet de la gestion des symptômes, qu'est-ce que c'est un enfant qui a des symptômes qui se sont amoindris dans les derniers jours et là, qui pourrait revenir. Je m'attends que ce volet-là va être assez complexe. Puis c'est là qu'on a des enjeux avec les familles de bien faire l'évaluation, de bien comprendre ensemble les mêmes choses. Puis il y a des parents qui vivent du stress. Hein. Ça fait plusieurs isolements qu'ils ont. Ils ont de la misère à retourner au travail. Ils vivent la pression de leurs employeurs. Donc, j'écoutais Nicolas tout à l'heure vous dire on va avoir besoin de l'aide des parents. Je fais le même appel. Puis je vois mes gestionnaires qui travaillent très fort. Ils ont passé toute la fin de semaine à faire le traçage des cas. La santé publique ne peut plus le faire. Donc, c'est des grosses semaines encore devant nous.
Ben, bon courage à vous puis à vos membres. Merci beaucoup, Mme Bellil.
Merci.
Au revoir. Geneviève Bellil est la directrice de l'Association québécoise des centres de la petite enfance. Ça fait le tour, là. Mais c'est important de couvrir les aspects, les examens, les tests, la vaccination, les écoles, les CPE. Alors, voilà pour le portrait.
L'essentiel de Paul Arcan.
C'est 23.